Cinquième partie. Jaune. 21-22 juillet. En ce dimanche matin, à 10h, le O'Malley Irish Spoon avait rarement été aussi désert. Deux vieux schnocks étaient assis non loin de l'entrée, devant des tasses de café et un plateau d'échecs. L'unique serveuse regardait, fascinée, un petit téléviseur fixé au-dessus du bar, qui diffusait une émission de téléachat. Le produit proposé semblait être un club de golf. Yunel Sablo, vêtue d'un jean délavé et d'un t-shirt moulant qui dévoilait sa musculature admirable, Ralph n'avait plus de musculature admirable depuis 2007 environ, avait choisi une des tables du fond. Lui aussi regardait la télé, mais en voyant Ralph, il lui fit un signe de la main. Alors qu'il s'asseyait, Yunel dit
« Je ne comprends pas pourquoi cette serveuse est fascinée par ce club de golf. »
« Vous voulez dire que les femmes ne jouent pas au golf ? Dans quel monde de machistes vivez-vous, amigo ?»«
Je sais bien que les femmes jouent au golf, mais ce club est creux. L'idée, c'est que si vous êtes pris d'une envie pressante au 14e trou, vous pouvez pisser dedans. Il y a même une sorte de petit tablier que vous pouvez déployer pour cacher votre engin. Ça ne peut pas marcher avec une femme. »
La serveuse vint prendre leur commande. Ralph prit des œufs brouillés et des toasts de pain de seigle, les yeux rivés sur le menu pour éviter de la regarder, de crainte d'éclater de rire. Une envie qu'il ne pensait pas devoir réprimer ce matin. Un petit ricanement lui échappa malgré tout. C'était l'image du tablier. La serveuse n'avait pas besoin de lire dans les pensées.
« Oui, on peut trouver ça amusant, » dit-elle. « Sauf si votre mari est un dingue de golf qui a une prostate grosse comme un pamplemousse et que vous ne savez pas quoi lui offrir pour son anniversaire. »
Ralph croisa le regard de Yunel. Et ce fut la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ils partirent d'un grand éclat de rire qui leur valut un coup d'œil réprobateur de la part des deux joueurs d'échecs.
« Vous voulez commander quelque chose, vous aussi ?» demanda la serveuse à Yunel. « Ou vous vous contentez de boire du café en vous moquant du fer neuf confort ?»
Yunel commanda des huevos rancheros. Une fois la serveuse repartie, il dit
« On vit dans un monde étrange, amigo, rempli de choses étranges. Vous ne trouvez pas ?»«
Étant donné le sujet que nous allons évoquer, je suis obligé d'être d'accord. Alors, qu'y avait-il de si étrange à Canning Township ?»«
Un tas de choses. »
Yunel possédait une sacoche en cuir, un accessoire que Jack Hoskins qualifiait, avec mépris, de sac à main pour homme. Il en sortit un iPad mini, protégé par une housse qui avait beaucoup voyagé. Ralph avait remarqué que de plus en plus de policiers utilisaient ce type de gadget, et il devinait que d'ici 2020 ou 2025, ils auraient totalement remplacé le traditionnel calepin. Le monde évoluait. Vous avanciez avec lui, ou bien vous restiez en rade. Tout compte fait, il préférait recevoir une tablette pour son anniversaire plutôt qu'un fer neuf confort. Yunel tapota sur plusieurs icônes pour faire apparaître ses notes.
Un jeune garçon nommé Douglas Elfman a découvert les vêtements abandonnés hier en fin d'après-midi. Il a reconnu la boucle de ceinturon en forme de tête de cheval dont il avait entendu parler aux infos. Il a appelé son père, qui a contacté immédiatement la police d'État. Je suis arrivé sur place avec l'équipe du labo sur le coup de 6h moins le quart. Pour le jean, difficile à dire. Ils se ressemblent tous. Mais j'ai reconnu immédiatement la boucle de ceinture. Regardez vous-même. »
Il tapota sur l'écran encore une fois, et la photo de la boucle en question s'afficha en gros plan. Pour Ralph, cela ne faisait aucun doute. C'était bien celle que Terry arborait sur les images de surveillance de la gare de Toubrow. Se parlant à lui-même autant qu'à Yunel, il dit
« Un maillon de plus. » Il abandonne la camionnette derrière le Shorties. Il prend la Subaru. Il l'abandonne près du pont de fer. Il se change.
Jean 501, slip jockey, chaussettes de sport blanche et une putain de paire de baskets hors de prix. Sans oublier la ceinture de cow-boy.
Après avoir enfilé des vêtements propres, il monte dans un taxi devant le Gentleman Please pour se rendre à Toubrow. Mais une fois arrivé à la gare, il ne prend pas le train. Pourquoi ?
Peut-être qu'il voulait brouiller les pistes, auquel cas il avait prévu de faire demi-tour depuis le début. Ou bien, j'ai une idée complètement dingue. Vous voulez l'entendre ?
Bien sûr, dit Ralph.
Je pense que Maitland avait l'intention de prendre le train jusqu'à Dallas-Fort Worth, puis de continuer, jusqu'au Mexique ou en Californie. Pourquoi rester à Flint City après avoir tué le fils Peterson en sachant que des gens l'avaient vu ? Sauf que...
Sauf que quoi ?
Il ne supportait pas l'idée de manquer le grand match à venir. Il voulait apporter une victoire de plus à ses joueurs. Il voulait les emmener en finale.
C'est complètement dingue. En effet.
Plus dingue que le meurtre de ce gamin ?
Un point pour Younel. L'arrivée de leur commande évita à Ralph de répondre. Après le départ de la serveuse, il demanda. Vous avez trouvé des empreintes sur la ceinture ?
Younel fit glisser son doigt sur sa tablette et montra à Ralph un autre agrandissement de la tête de cheval. Une fine couche de poudre blanche couvrait le métal argenté. Ralph distingua une superposition d'empreintes qui ressemblait à ses dessins de pieds sur les anciens schémas destinés à enseigner divers pas de danse.
Les gars de la police scientifique possédaient les empreintes de Maitland dans leur ordinateur, répondit Younel. Et le logiciel a établi immédiatement une correspondance. Mais attendez, ce n'est pas ça le plus bizarre, Ralph. Les crêtes et les volutes sont peu marquées et totalement interrompues par endroits. Ça tiendra le coup devant un tribunal. Mais le technicien qui a effectué les prélèvements, et il en a effectué des milliers, m'a dit qu'elles ressemblaient à des empreintes d'une personne âgée, 80 ou 90 ans. Je lui ai demandé si ça pouvait être dû au fait que Maitland, pressé de se changer et de foutre le camp, avait agi dans la précipitation. Le technicien a répondu que c'était possible, mais je voyais bien qu'il ne paraissait pas très convaincu.
« Hum !» fit Ralph en attaquant ses œufs brouillés. Son appétit, à l'instar de son éclat de rire inattendu provoqué par le club de golf à double usage, constituait une heureuse surprise. « C'est bizarre, en effet, mais sans doute accessoire. » Et pendant combien de temps encore allait-il continuer à rejeter les anomalies qui ne cessaient de surgir dans cette affaire en les qualifiant d'accessoires ?
« On a trouvé un autre groupe d'empreintes, » ajouta Younel. « Floues, elles aussi. Trop floues, à vrai dire, pour que le technicien se donne la peine de les soumettre au fichier central du FBI. Mais il possédait déjà toutes les empreintes éparses relevées à bord de la camionnette, plus celles de la ceinture. Dites-moi ce que vous en pensez. »
Il tendit son iPad à Ralph. Sur l'écran s'affichaient deux jeux d'empreintes, sujet inconnu camionnette et sujet inconnu boucle de ceinture. Elles se ressemblaient, mais pas totalement. Dans un procès, elles ne prouveraient rien du tout, surtout face à un avocat coriace de la trempe de Howie Gold. Mais Ralph n'était pas au tribunal, et pour lui, toutes ses empreintes appartenaient à la même personne, car ça collait avec ce que lui avait appris Marcy Maitland la veille. La correspondance n'était pas parfaite, certes, mais suffisante pour un inspecteur en congé administratif qui n'était pas obligé d'en référer à ses supérieurs, ou à un procureur fermement décidé à se faire réélire. Pendant que Younel mangeait ses huevos rancheros, Ralph lui raconta son entrevue avec Marcy, en mettant un élément de côté pour plus tard.
« Tout tourne autour de la camionnette », conclut-il. « Les techniciens trouveront peut-être quelques empreintes appartenant au gamin qui l'a volé le premier. »«
C'est fait. La police d'El Paso nous a transmis les empreintes de Merlin Cassidy. » Un informaticien a établi la concordance avec certaines des empreintes relevées dans la camionnette, principalement sur la boîte à outils, que Cassidy a dû ouvrir pour voir si elle ne contenait pas des objets de valeur. Elles sont bien nettes, et ce ne sont pas celles-ci.
D'un mouvement de l'index, il revint sur les empreintes floues du sujet inconnu, étiquetées « camionnette » et « boucle de ceinture ». Ralph se pencha en avant et écarta son assiette.
« Vous voyez comme tout s'imbrique ?» On sait que ce n'est pas Terry qui a volé la camionnette à Dayton, car les Maitland sont rentrés en avion. Mais si les empreintes floues prélevées dans la camionnette et sur la boucle de ceinture sont les mêmes,
vous pensez qu'il avait un complice finalement, celui qui a conduit la camionnette de Dayton à Flint City.
Forcément, dit Ralph. Il n'y a pas d'autre explication.
Un complice qui lui ressemblait?
On en revient toujours à ça, soupira Ralph.
Et les deux jeux d'empreintes se trouvaient sur la ceinture,
poursuivit Yunel. Ce qui signifie que Maitland et son double portaient la même, et peut-être aussi les mêmes vêtements. Pas de problème de taille, hein? Des jumeaux séparés à la naissance. Seul problème, les registres indiquent que Terry Maitland était enfant unique.
Vous avez autre chose à part ça?
Oui. On en arrive au très, très bizarre.
Yunel déplaça sa chaise pour s'asseoir à côté de Ralph. La photo sur l'écran de l'iPad montrait en gros plan le jean, les chaussettes, le slip et les baskets, rassemblés en tas à côté d'un triangle jaune en plastique portant le chiffre 1.
Vous voyez ces taches?
Oui, c'est quoi?
Je ne sais pas. Et les gars du labo non plus. Mais l'un d'eux a dit que ça ressemblait à du sperme. Et je ne suis pas loin de penser comme lui. Sur les photos, ça ne se voit pas bien, mais...
Du sperme? Sérieusement?
La serveuse revint. Ralph retourna à la tablette.
Encore un peu de café, messieurs?
Ils tendirent leurs tasses. Quand la serveuse fut repartie, Ralph s'empressa de revenir sur la photo des vêtements, en l'agrandissant avec deux doigts.
Allons, Yunel. Il y en a sur l'entrejambe du jean, sur les deux jambes, sur le revers.
Et aussi sur le slip et les chaussettes. Sans parler des baskets. Dehors et dedans. Séchés. Comme un joli vernis craquelé sur une poterie. Il y en avait peut-être de quoi remplir un fer neuf, creux.
Cette fois, Ralph ne rit pas.
Ça ne peut pas être du sperme. Même John Holmes, du temps de sa splendeur,
je sais. Et le sperme ne fait pas ça.
Yunel balaya l'écran avec son doigt. La photo suivante représentait un plan large de la grange. Un autre triangle jaune, portant le chiffre 2, avait été disposé à côté d'un tas de foin. Du moins, Ralph supposait que c'était du foin. Dans le coin gauche de la photo, un triangle numéro 3 avait été posé sur une balle de foin affaissée, qui semblait être là depuis longtemps. Presque entièrement noircie. Idem sur le côté. Comme si une substance corrosive avait coulé jusqu'au sol.
C'est la même substance ? Demanda Ralph. Vous en êtes sûr ?
À 90%. On en a trouvé aussi dans le grenier. Si c'est bien du sperme, on est face à une pollution nocturne qui mérite de figurer dans le livre Guinness des records.
Non, impossible. C'est autre chose. Premièrement, le sperme ne fait pas noircir la paille, ça n'a aucun sens.
C'est aussi mon avis. Mais évidemment, je ne suis que le fils d'une famille de pauvres fermiers mexicains.
Je suppose que les gars du labo vont l'analyser.
Yunel acquiesça.
Ils sont dessus.
Vous me tiendrez informé.
Oui. Vous comprenez pourquoi je disais que ça devient de plus en plus bizarre?
Gianni a dit que c'était inexplicable.
Ralph se racla la gorge. En fait, elle a employé le mot « surnaturel ».
Ma Gabriella a suggéré la même chose. C'est peut-être un truc de nana, ou de Mexicain.
Ralph haussa les sourcils.
« Si, señor, » dit Yunel en riant. « La mère de ma femme est morte jeune, et elle a été élevée par son abuela. Cette vieille femme lui a farci la tête de légende. Quand je lui ai parlé de cette affaire, Gabi m'a raconté l'histoire du croque-mitaine mexicain. Le type en question était en train de mourir de la tuberculose. Et un vieux sage qui vivait dans le désert, un ermitaño, lui a affirmé qu'il pouvait guérir en buvant le sang des enfants et en se frottant la poitrine et les parties intimes avec leur graisse. Alors, le croque-mitaine l'a écouté. Et maintenant, il est immortel. On raconte qu'il choisit uniquement les enfants passages. Il les emporte dans un grand sac noir. Gabi m'a avoué qu'un jour, elle avait 7 ans, elle s'est mise à hurler quand le médecin est venu chez elle soigner son frère qui avait la scarlatine.
Parce que le médecin avait un sac noir.
Yunel hocha la tête.
J'ai le nom de ce croque-mitaine sur le bout de la langue, mais pas moyen de m'en souvenir. Je déteste ça, pas vous?
Vous pensez donc qu'on a affaire à un croque-mitaine?
Non. Je suis peut-être le fils d'une famille de pauvres fermiers mexicains, ou bien le fils d'un vendeur de voitures d'Amarillo, mais je ne suis pas attentado. C'est bien un homme qui a tué Frank Peterson, aussi mortel que vous et moi. Et cet homme est presque à coup sûr Terry Maitland.
Si on pouvait reconstituer ce qui s'est passé, toutes les pièces s'emboîteraient et je pourrais enfin dormir la nuit. Parce que cette histoire finit par me rendre dingue.
Il consulta sa montre.
Il faut que j'y aille. J'ai promis à ma femme de la conduire à une foire d'artisanat à Cap City. D'autres questions ?
Au moins une, je suppose. Car il y a encore un truc bizarre.
Y avait-il des traces de véhicules dans la grange ?
Ce n'est pas ça que je pensais, mais il se trouve que oui, il y en avait. Pas très utile, cependant. On distingue des empreintes de pneus et des taches d'huile, mais pas de quoi établir des comparaisons. Selon moi, elles ont été faites par la camionnette qu'a utilisée Maître Lante pour enlever le gamin. Les roues sont trop écartées pour qu'il s'agisse de la Subaru.
Dites voir. Vous avez toutes les dépositions des témoins sur votre tablette magique, hein? Avant de partir, pourriez-vous retrouver celle de Claude Bolton, un videur du Gentleman Please, même s'il réfute ce terme dans mon souvenir?
Yunel ouvrit un dossier, secoua la tête, en ouvrit un autre, puis tendit l'iPad à Ralph.
Faites défiler.
Ralph fit défiler le texte, dépassa le passage qui l'intéressait, puis revint en arrière.
Ah, voilà. Bolton a déclaré, il y a un autre truc qui me revient, c'est pas énorme, mais si c'est vraiment lui qui a tué ce gamin, ça fout les jetons. D'après lui, le type l'aurait coupé. Quand je lui ai demandé ce qu'il entendait par là, il m'a expliqué qu'il avait remercié Maitland pour s'être occupé des neveux de son ami, et il lui a serré la main. À ce moment-là, l'ongle de l'auriculaire de Maitland lui a égratigné le dos de la main. Ça lui a rappelé l'époque où il se droguait, car certains types qu'il fréquentait se laissaient pousser l'ongle du petit doigt pour sniffer la coke. Apparemment, c'était très chic.
Et alors, c'est important ?
Yunel consulta de nouveau sa montre, de manière ostentatoire.
Peut-être pas. Peut-être que...
Il refusait d'employer l'adjectif « accessoire » une fois de plus. Ce mot lui déplaisait de plus en plus.
Ce n'est pas grand-chose, sans doute.
Mais ma femme appelle ça une convergence. Car Terry a été blessé de la même manière quand il est allé voir son père à Dayton dans un institut pour personnes atteintes de démence sénile. Ralph raconta rapidement l'histoire de l'aide-soignant qui avait glissé et entaillé la main de Terry en voulant se retenir à lui. Après un moment de réflexion, Yunel haussa les épaules.
« Je pense que c'est une pure coïncidence, amigo. Il faut vraiment que j'y aille, si je ne veux pas encourir la colère de Gabriella. Mais il y a encore une chose qui vous échappe, et je ne parle pas des traces de pneus. Votre pote Bolton le mentionne lui aussi. Revenez un peu en arrière dans sa déposition et vous trouverez. »
Ralph n'avait pas besoin de remonter plus haut dans le document. C'était juste devant lui. Un pantalon, un slip, des chaussettes et des baskets, mais pas de chemise.
« Exact, » dit Yunel. Soit c'était sa chemise préférée, soit il n'en avait pas d'autre de rechange quand il a quitté la grange.
2. À mi-chemin de Flint City, Ralph comprit enfin pourquoi cette bretelle de soutien-gorge le tracassait. Il se gara sur l'immense parking d'une grande surface vendant uniquement de l'alcool et sortit son portable pour appeler Yunel. Il tomba sur sa boîte vocale. Il ne laissa pas de message. Yunel avait déjà fait plus que son devoir. « Laissons-le profiter de son week-end », se dit-il. Et maintenant que Ralph avait le temps d'y réfléchir, il se disait qu'il n'avait pas envie de partager cette convergence avec quiconque, sauf peut-être avec sa femme. La bretelle de soutien-gorge n'était pas la seule chose jaune qu'il avait vue durant cet épisode d'hypervigilance avant l'assassinat de Terry. Son cerveau avait simplement remplacé un élément faisant partie du vaste tableau ubuesque et masqué par Holly Peterson, qui avait sorti un vieux revolver de son sac en tissu quelques secondes plus tard. Pas étonnant que cette image se soit perdue. L'homme aux horribles brûlures sur le visage et aux tatouages sur les mains portait un bandana jaune sur la tête, sans doute pour masquer d'autres cicatrices. Mais était-ce vraiment un bandana? Ne pouvait-il pas s'agir d'autre chose? La chemise manquante, par exemple. Celle que Terry portait à la gare. « Je pousse un peu », pensa-t-il. Et peut-être était-ce le cas. Mais son subconscient, ses fameuses pensées derrière les pensées, s'époumonnait depuis le début.
les yeux fermés, il s'efforça de faire apparaître précisément ce qu'il avait vu durant les dernières secondes de la vie de Terry. Le vilain rictus de la présentatrice blonde, découvrant le sang sur ses doigts. Le dessin de la seringue qui accompagnait ces mots « Maitland, fais-toi soigner ». Le garçon au bec de lièvre. La femme penchée en avant pour faire un doigt d'honneur à Marcy. L'homme brûlé, dont la moitié des traits semblait avoir été effacée par un coup de gomme de Dieu, ne laissant que des bosses, une peau rose à vif et un trou là où se trouvait le nez avant que les flammes ne gravent sur son visage des tatouages bien plus sauvages que ceux des mains. Et ce que vit Ralph en se remémorant cette scène, ce n'est pas un bandana, mais quelque chose de bien plus large, qui tombait sur ses épaules à la manière d'une coiffe. Oui, ça pouvait être une chemise. Et alors ? Était-ce nécessairement la chemise ? Celle que portait Terry sur les images de vidéosurveillance ? Existait-il un moyen de le savoir ? Possible. Mais pour cela, il devait enrôler Gianni, beaucoup plus doué que lui avec les ordinateurs. Par ailleurs, le moment était sans doute venu de cesser de considérer Howard Gold et Alec Pellé comme des ennemis.
« Nous sommes peut-être tous dans le même camp », avait dit Pellé la veille au soir, sur le perron de la maison de Maitland. Et c'était peut-être vrai. Ou ça pouvait le devenir.
Ralph redémarra et rentra chez lui, en flirtant avec les limitations de vitesse durant tout le trajet.